Rebonjour à toutes et à tous. Parmi nous, il y a de tout. Alors quand je dis ça, c'est un constat plein de joie ou alors plein de tristesse, ça dépend du tout. Il y a des gens qui vous disent, infatigables, le repos ce sera dans la tombe. Qui considèrent comme une perte de temps toute période inactive. Et des chrétiens, des chrétiennes qui ne se sentent pas légitimes à se reposer un peu. Et puis au contraire, il y a des gens qui pratiquent à merveille l'art de la sieste, n'hésitent pas à prendre le temps de se ressourcer, de se reposer pour reprendre des forces, à faire des pauses de leur engagement. De quel bord êtes-vous ? Le sujet peut faire débat, dans le milieu professionnel par exemple, et pour les personnes comme moi qui accomplissent un service pastoral, il y a, je me souviens d'un collègue pasteur qui disait « Oh, le fantasme de certains pasteurs, c'est de mourir en chair. » Je lui dis « C'est pas le mien. » Il se moquait un peu de ces gens qui, sous prétexte de servir, jouent les héros et veulent aller jusqu'au bout de leur dernière force pour infliger leur ministère à une assemblée. Puis il y a des gens qui savent prendre des retraites paisibles, disparaître un petit peu. Il y a de tout dans nos églises. Pour préparer, pour poursuivre le thème que Marie-Ève a proposé du repos, qu'elle a elle-même très bien traité avec les citations qu'elle nous a proposées, j'ai ouvert ma Bible. Et jusque-là, ce n'est pas un scoop. Et j'ai cherché les mentions du repos. Je n'ai pas dû aller bien loin. Alors, dans ma Bible, c'est la deuxième page de la Bible. Le premier à s'être reposé dans l'histoire du monde, c'est Dieu lui-même. Aussi bizarre que ça nous apparaisse. Genèse 2. Chapitre 2, pardon, verset 2. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Dans le texte, nous sommes à la fin des six jours de création. Si vous savez, vous connaissez ce récit, on dit souvent « Dieu a créé le monde en sept jours ». Erreur. Il a créé le monde en six jours. Et le septième, il s'est reposé. Dieu se reposa. En hébreu, c'est le verbe « shavat » qui a donné le « shabbat », cher à nos amis juifs. Je me souviens du rabbin de Mulhouse, je l'ai déjà dit peut-être, qui disait la plus grande fête juive, c'est pas Rosh Hashanah, surtout pas d'ailleurs, c'est pas Pessah même, Pâques, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, on le célèbre 52 fois par an. Tandis que les autres, une seule fois par an. C'est un verbe, le verbe Shabbat, qui veut dire cesser. Il peut avoir d'autres sens que reposer d'ailleurs, mais dans certains contextes, et le contexte ici est très clair, cesser de créer, cesser de travailler, cesser d'agir. On arrête, on pose les outils et on fait autre chose ou on fait rien. Cesser le travail, c'est se reposer. Le repos n'a de sens que si on a travaillé. Dieu, pour se reposer le septième jour, avait travaillé les six jours qui précédaient. Se reposer, ce n'est donc pas paresser. Le repos, l'éloge du repos n'est pas l'éloge de la paresse. Parce que quand on se repose, on a travaillé six jours. C'est drôle parce qu'en français, reposer et paresser, c'est presque les mêmes lettres. Pourtant, il y a une bonne différence. Il y a des abus de repos qui frisent, paresse. connaissez l'emploi du temps favori de certains salariés. À 9 heures, on arrive au travail et on prend le café. À 10 heures, on prend la pause. À 11 heures, l'apéritif. À 14 heures, la sieste. À 15h30, le travail, quand même. Et à 16h, le thé. Et à 17h, on met fin à cette lourde journée de travail. Dans la conception que nous propose la Genèse, le travail fatigue. Alors, bien sûr, dire que Dieu se fatigue, c'est même assez contraire à certaines déclarations d'Ésaïe, par exemple, quand il dit « Dieu ne se fatigue pas !» Dieu est le Tout-Puissant, il ne se fatigue pas. Mais l'exemple qui est donné ici, dans le texte de la Genèse, nous montre qu'on s'est fatigué au travail. Le texte dit « Trois fois, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. » C'est dit trois fois dans ces deux petits versets. « De tout le travail qu'il avait fait. » Quelle est notre notion de la fatigue aujourd'hui ? La notion de pénibilité est extrêmement complexe en droit du travail. On entend souvent à la radio les discussions qui ont lieu là-dessus. Retenons l'exemple du Créateur. Simplement aujourd'hui, je ne vais pas m'engager dans le droit du travail. Qui, si l'on peut dire, s'est fatigué au travail et a eu besoin de se reposer. Lisons la suite de ce texte, enfin j'ai déjà lu tout à l'heure. « Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré », c'est au verset 3. C'est un jour mis à part, un jour sanctuarisé, on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire protégé de tout ce qui pourrait l'envahir. Et si ce texte-là est dans la Genèse, c'est pour nous servir d'exemple, d'enseignement, c'est pour nous dire « Il y a des moments où toi, humain, tu as besoin d'arrêter ton travail ». Et de protéger ces temps. Que toute notre vie ne soit pas que rentabilité, que recherche d'argent, que activité économique. Cette règle, parce que ça va être une règle pour les Israélites, mais ça peut nous faire leçon, nous aussi, nous pouvons en tirer leçon, cette règle est au service de notre humanité. Ce n'est pas « il est interdit de travailler le septième jour », c'est « Repose-toi le septième jour. » Alors bien sûr, dans l'histoire du peuple d'Israël, le respect du sabbat est devenu quelque chose d'extrêmement sensible, parce que c'est une fête qu'on consacre à Dieu. Et le respect du sabbat, c'était obligatoire. Et il était condamnable, et il a été condamné de faire des choses le jour du sabbat. Il y a des gens qui ont payé de leur vie parce qu'ils avaient osé rompre le sabbat et travailler. À l'heure actuelle, on n'a plus ce genre de choses. Nous, en tant que chrétiens occidentaux, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans le pays d'Israël aujourd'hui. Ce serait intéressant d'interroger quelques personnes. Mais toute cette discussion me fait penser à une petite phrase de Jésus, rapportée par Marc au deuxième chapitre de son évangile. Le sabbat est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Marc, chapitre 2, verset 23. On sait que le sabbat, du temps de Jésus même, était l'objet de règles très strictes et que Jésus faisait face à des gens qui lui reprochaient d'avoir une certaine liberté à l'égard du sabbat. Et voilà l'enseignement de Jésus. Le sabbat est fait pour l'homme. C'est une règle qui est en faveur de l'humanité, de notre humanité. Ne rejetons pas la notion de repos sous prétexte que nous n'avons plus à respecter le sabbat en tant que chrétiens. Ne nous disons pas on va servir H24 et 7 jours sur 7 notre Dieu. Les textes qui ont été projetés tout à l'heure nous montrent que même Jésus disait à ses disciples « Reposez-vous un peu ». La notion de repos, ceci dit, et je vais faire un petit excursus, est d'ailleurs reprise dans la lettre aux Hébreux. Les connaisseurs le savent et m'attendent, vous m'attendez à ce sujet. D'une toute autre manière, ceci dit. Le repos, c'est par la foi qu'on y entre, dans la lettre aux Hébreux, comme les Israélites étaient entrés, ou pas d'ailleurs, dans le pays de Canaan. s'ils n'y étaient pas entrés, c'est parce qu'ils avaient manqué de foi, et non, et nous donc, nous devons entrer dans le repos par la foi. Mais le repos, là, est mis en parallèle avec la terre promise. Et la terre promise, dans laquelle les Juifs ont pu entrer finalement, il a fallu bosser. Ils sont entrés dans le repos, mais c'était un repos plein d'action, plein de culture, de construction. Le chapitre 4 de la lettre aux Hébreux, au verset 3 et la suite, nous invite à voir le repos comme un lieu, comme un temps consacré à Dieu dans lequel on va être actif. En effet, c'est en croyance, par la foi, en croyance que la Bible nous dit que nous entrons en communion avec Dieu. C'est vrai pour aujourd'hui, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous disait « Ayez foi, et comme ça vous entrerez dans cette terre promise de la communion avec Dieu. » Par la foi, nous entrons dans la paix de Dieu. Comme une clé ouvre une porte, la foi nous ouvre le repos de Dieu. Autrement dit, c'est surtout l'aspect du jour sanctifié, de la présence de Dieu, qui est développé par la lettre aux Hébreux, beaucoup plus que la notion de repos par rapport au travail. Et donc, pour notre sujet, d'avoir cité la lettre aux Hébreux ne nous sert pas à grand-chose. C'est dans notre texte, et nous avons surtout, dans le texte de Genèse, nous avons surtout le rapport entre, voilà, le contraste entre repos et travail. Est-il donc légitime de se reposer ? À deux reprises, l'apôtre Paul parle de saisir les occasions, saisir toutes les occasions. Vous avez cette expression qui a souvent été traduite assez littéralement du grec, racheter le temps. Racheter l'occasion. Compliqué, le temps. Enfin, si, sur certains jeux vidéo, on doit acheter du temps. Enfin, j'en sais rien, je ne me pratique pas, mais à la fois, on doit mettre une pièce de 5... ça n'existe pas, les pièces de 5 euros, j'allais dire une grosse bêtise. Les 2 euros... Enfin, je ne pratique pas, désolé, c'est une mauvaise illustration. Racheter le temps. Saisissez les occasions qui se présentent à vous pour servir le Seigneur. Et là, quand Paul dit ça, notamment dans la lettre aux Éphésiens, il dit « Les temps sont mauvais, ne perdez pas de temps, saisissez, faites feu tout bois pour servir Dieu dans ce monde qui court à sa perte. » Ça veut dire que, en tant que chrétien, mais pas question de prendre des vacances, pas question d'aller faire une rando dans les Vosges, pas question de faire une partie de pétanque avec les voisins sans leur glisser Jean 3,16. Pas question de faire des jeux endiablés, non, pas endiablés d'ailleurs, avec les enfants, il faut leur inculquer les principes de l'Évangile. Saisissez toutes les occasions. Vous allez au restaurant, attrapez le serveur et dites-lui qu'il est perdu s'il ne se croit pas au Seigneur Jésus. Saisissez toutes les occasions, ne vous reposez jamais. Est-ce que c'est ça que nous devons faire? Oui. Mais même Dieu se reposa. Celui qui, dit le psaume 121, ne sommeille ni ne dort, se reposa. Dans mon bureau, j'ai de nombreuses citations de droite et de gauche, et j'en ai une. Celui qui ne se repose pas fatigue les autres. Je me l'applique souvent. Je veux être bon avec les autres. Je veux être quelqu'un de sympa avec les autres. Mais si je suis fatigué, ça ne marche pas. Si je ne prends pas le temps de me réfugier auprès de mon Dieu qui est bon avec moi, ça ne marche pas. Je veux être quelqu'un d'optimiste, qui a toujours du courage, qui est toujours plein de bonnes idées, de projets pour l'avenir. Mais si je suis fatigué, si je n'ai pas pris le temps de me recentrer, de me retrouver avec le Dieu éternel, ça ne marche pas. Je vais être à l'écoute des gens, je vais être celui à qui l'on parle facilement. Mais si je pique du nez pendant que quelqu'un me parle, ça ne va pas marcher non plus. Et si je n'ai pas appris à écouter, après ne pas bouger, quand quelqu'un me parle, à ne pas regarder ma montre, à ne pas penser à mille autres choses et à me concentrer sur la personne qui me parle et ne vivre que de ses paroles pendant le temps où elle me parle pour être au service de mon frère, de ma sœur, dans l'écoute. Alors, je ne fais pas mon travail de frère. Donc oui, nous avons besoin de nous reposer, ou plutôt, les autres ont besoin que je me repose. Tout à l'heure, quelqu'un qui se reconnaîtra a dit « Il faut que le pasteur prenne des vacances. » Si c'est un bon pasteur, il a mérité les vacances. Si c'est un mauvais pasteur, l'Église a mérité ses vacances. Je vous laisse choisir en ce qui me concerne. Si je veux être positif, alors il faut que je cultive dans le secret ma confiance en Dieu. Et il faut que je me rende compte, que je fasse ce constat, je ne peux pas produire tout le temps. La nature nous le dit, les agriculteurs nous le disent quand ils laissent reposer des terres avant de les recultiver. Et on peut comparer d'ailleurs avec... Alors je sais que là, dans ce cas-là, l'un d'entre vous va venir me voir à la fin du culte et va me dire « Oui, mais là, tu n'as pas bien décrit comment on doit cultiver. Désolé. » Je sais qu'il existe une manière de traiter les terrains pour qu'ils produisent tout le temps. Et j'ai entendu des expressions comme « épuiser la terre ». On abuse de ses ressources, on les prend, on les prend, on les prend, et après, elle ne produit plus rien. Utilisons cette image pour nous. De temps en temps, nous avons besoin d'être en jachère, de laisser pousser, de laisser faire. Si je veux produire de bons fruits dans ma vie, il faut leur laisser le temps de mûrir. Nos cultes servent à ça, en particulier, et je vous propose de les voir comme ça. Pas « je mets ma belle chemise et je vais au culte pour avoir fait mon devoir de bon chrétien », mais je prends ce temps-là pour me reposer, pour cultiver ma foi, pour écouter mon frère, ma sœur, pour me laisser aimer par eux et pour aimer à mon tour. Je prends ce temps de repos pour lire cette Bible que je n'ai peut-être pas assez lue à cause de toutes mes activités pendant la semaine. Je prends ce temps-là pour être là, comme un enfant qui a grandi, qui a quitté la maison et qui revient chez lui et qui retrouve des objets, des lieux, des odeurs qui lui rappellent tout ce qu'il a reçu dans cette maison, dans cet appartement. Et qui lui font chaud au cœur, et qui le recentrent. Pendant tout ce temps-là, il ne produit rien. Il se repose. Il laisse son cœur préparer de bons fruits quand l'activité reprendra. Prendre ce temps-là pour se poser, pour me regarder un petit peu dans le miroir, savoir qui je suis, qui je n'aime pas être et qui j'ai envie d'être. Prendre ce temps de repos pour retrouver mon sourire que la pression des activités m'a peut-être fait perdre. Prendre le temps du repos pour mieux me donner aux autres ensuite. Prendre ce temps de repos où j'ai le courage de voir mes limites, les limites de mes forces, où je sais les reconnaître, où je ne les cache pas. Où j'arrive à dire « je n'en peux plus », où j'arrive à dire « ça, je n'arrive pas à le faire, il faut que quelqu'un d'autre le fasse ». Prendre ces temps de repos où je mûris des projets, en me disant au contraire « ça, je pense que je peux y arriver », après réflexion. Prendre ces temps où je pleure sur un échec, sur un deuil, et où les larmes ont le droit de couler. Je ne me fais pas le reproche d'être fragile. Prendre ces temps de repos, où je laisse le doute s'exprimer. J'hésite, vais-je à droite, vais-je à gauche, Je laisse la foi me répondre. Et puis ensuite, je vais me lever. Après avoir pris ce temps de repos, je vais retrousser les manches. Je vais relever le menton. Et hop, je vais servir mon Dieu. Je vais aimer les gens qui m'entourent. Je serai en action, fièrement, courageusement, avec volonté. Je reprendrai haleine et je reprendrai la marche. Dieu se reposa le septième jour. Lui n'avait pas besoin de passer par tout ce que je viens de décrire, mais il nous montre l'exemple. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Et si lui nous a montré l'exemple, faisons, prenons ces temps de pause. Je vous rappelle que le repos n'est pas la paresse, mais l'absence de repos, c'est peut-être de l'orgueil. S'interdire le repos, c'est peut-être de l'orgueil. Alors voilà, je vous propose que nos cultes soient des temps de repos et qu'ils soient beaux pour ça. Que des gens viennent, que nous venions et que nous puissions inviter d'autres à ces temps où l'on se retrouve face à soi-même, face à Dieu, côte à côte avec les frères et les sœurs ou toute personne. Que ces temps soient des temps porteurs de vie, où nous venons après de l'agitation et où nous nous asseyons un peu et nous nous préparons pour repartir pour une nouvelle semaine. Je trouve important que nos existences humaines soient marquées par des temps. Je sais que nous ne sommes pas à respecter le sabbat comme les Juifs doivent le faire ou veulent le faire dans le cadre de leur observance. Mais en même temps, le principe du sabbat, nous ne devons pas le rejeter. Si nous le vivons, est-ce que c'est ce que je vous propose, autant que possible, il y a parmi nous des gens qui travaillent le dimanche. Mais si nous le vivons autant que possible un dimanche matin, je pense que nous gardons l'esprit de ce jour consacré, sanctifié, tel que Genèse 2:3 nous le dit. Nous gardons cet esprit, l'esprit de cet enseignement par le geste que Dieu a fait dans Genèse 2. Et nous en serons vraiment bénéficiaires. Amen.